In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. L'émission d'aujourd'hui, qui porte le numéro 165, c'est celle de la deuxième chance. Pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu assister aux multiples rencontres auxquelles participent Françoise Roy et Étienne Davodeau pour le nouvel album d'Étienne, Là où tu vas. Pour toutes celles et tous ceux aussi qui habitent trop loin des endroits où ils se produisent ou dont les libraires n'ont pas saisi l'importance de cet album. Plus simplement encore, parce qu'il sera impossible à nos deux héros de BD d'être partout à la fois. Parce que ces rencontres, c'est à chaque fois un petit miracle, un moment d'humanité partagée, si rare en ces temps difficiles. Vous allez constater une nouvelle fois ce que l'on savait déjà, Étienne Davodeau est un humaniste. Et en choisissant de parler du métier de sa compagne, l'accompagnement de personnes atteintes de troubles cognitifs, c'est de l'humanisme à haute densité qui est délivré. Et ça fait tellement de bien. Maintenant, laissons-leur la place. Bonjour Françoise Roy.
Bonjour Luc.
Bonjour Étienne Davodeau.
Bonjour.
Pour commencer cette conversation, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser l'image à laquelle a eu recours Thi Nguyen lors de la présentation de votre album au mois d'octobre dernier. J'ai donc le plaisir d'interviewer aujourd'hui des personnages de bande dessinée en chair et en os. Et je vous remercie de m'accueillir chez vous, dans l'antre d'Étienne Davodeau. Là où tu vas, c'est un reportage graphique étrange, puisqu'il peut se lire à plusieurs niveaux. Il y a l'exploration d'un métier, celui d'accompagnant de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles cognitifs. Il y a la présentation de pathologies, devant lesquels beaucoup de gens sont de plus en plus concernés et de plus en plus démunis. Et puis, il y a la vie d'un couple exposé, y compris avec la part d'intime. Sur ce dernier aspect, vous aviez conscience qu'il surgirait nécessairement, vous, Françoise, cet aspect de la part d'intime qui apparaît dans la bande dessinée.
Oui, vraiment, oui. C'était vraiment... Ça a démarré même très tôt, très en amont du livre, de pouvoir parler avec Étienne de mon travail d'une part, mais aussi de cette relation en fait intime et qui peut être mise un peu en rapport en plus avec la relation intime avec les personnes que j'accompagne.
Et vous, Étienne, parce que on vous connaît, vous travaillez, vous faites du reportage, mais là vous exposez. Alors vous étiez déjà exposé sur le droit du sol. Vous vous étiez déjà beaucoup dessiné dans le droit du sol, mais vraiment beaucoup dessiné. Mais là, vous entrez dans votre propre intimité. Il y a, je pense, à deux pages, peut-être même deux cases. Vous nous faites entrer dans votre chambre à coucher. Voilà. On vous voit dans votre lit, vous pensant. Et Françoise dormant, vous aviez imaginé que cette partie-là devrait apparaître dans la bande dessinée ?
Oui, cette image-là dont vous parlez, qui est effectivement l'image la plus intime qui soit, puisque je nous dessine tous les deux dans un endroit qui est le plus privé qui soit également, la chambre à coucher d'un couple. Cette image-là, elle parle de ça, elle parle du fait que l'intimité est au cœur du projet de ce livre. L'intimité, évidemment, celle des personnes que Françoise accompagne au quotidien, parce qu'elle va au plus près d'eux, dans les gestes du quotidien les plus banals, les plus intimes. Et donc, forcément, par écho, l'intimité qui allait se mettre en place entre le narrateur, moi-même, et le personnage principal du livre, Françoise, qui est la femme avec qui je vis depuis plus de 40 ans. Donc, il y a forcément ce rapport à l'autobiographie. Alors, c'est vrai que dans mes livres précédents, il est aussi présent parce que parce que je dessine des livres à la première personne du singulier, je dis « je ». Et en bande dessinée, quand on dit « je », on dessine « je », donc on se dessine soi-même. Je n'aime pas particulièrement ça, hein, je dois avouer, mais c'est sans doute la méthode la plus efficace que j'ai trouvée pour faire ce genre de livre de bande dessinée. Donc, dans « Là où tu vas », c'est de l'intimité au carré, en quelque sorte, effectivement. Ouais.
J'aime beaucoup l'image, l'intimité au carré. C'est un reportage, ça nécessite une enquête, des travaux préparatoires. Est-ce que tout était planifié dès le début ou l'album s'est construit au fur et à mesure, Étienne ?
Ce travail a consisté d'abord à essayer de convaincre Françoise d'accepter d'entrer dans le champ de mes pages et de mon projet de livre. Ça fait une quinzaine d'années que Françoise fait ce métier et ça doit faire presque 15 ans que je lui propose d'en faire le récit. Et ça fait presque 15 ans qu'elle refuse. Et puis le jour où elle a accepté, après de longues négociations et discussions, en fait je lui ai proposé qu'on s'isole un mois tous les deux, on est partis à la montagne dans un chalet perdu dans la neige, pour pouvoir parler en détail de son métier. Donc l'organisation du travail, elle a commencé par ça. C'est-à-dire, j'ai demandé à Françoise de me raconter au plus près les gestes, les mots, les minutes des accompagnements qu'elle organise avec les personnes qui lui demandent. Et ça, c'était la base première. Et une fois qu'on a eu ce matériau-là, le reste, c'est un travail classique, entre guillemets, si j'ose dire, d'auteur de bande dessinée, qui consiste à écrire des scènes, à les découper, à les dialoguer, à les dessiner, évidemment. Mais il y a ce premier travail, et c'est à ce stade-là que tout s'est mis en place réellement. Évidemment, il y a eu beaucoup de réglages ultérieurs, mais c'est comme ça que j'ai démarré.
Et vous, Françoise, ce temps de maturation dans votre tête, entre la première hypothèse, même pas la première hypothèse, la première éventualité, quand Étienne vous dit « Ah, ce serait bien que je fasse quelque chose sur ton métier », ce long temps de maturation, comment vous l'avez vécu ? Est-ce qu'il vous a travaillé tout le temps ? Parce que ça donne une ouverture de bande dessinée que je trouve, moi, magnifique. Émouvante, parce qu'on sent qu'il a réussi à transcrire ce cheminement. Vous l'avez vécu, comment ce temps de maturation ?
Ça a été effectivement un peu long, comme temps de maturation, mais je pense qu'il était aussi nécessaire, parce qu'il y a 15 ans, je n'avais pas la même expérience auprès des personnes que j'accompagne, des personnes qui ont des troubles cognitifs, donc je pense que là, c'était quelque chose de nécessaire. Mais il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles j'ai refusé, c'est vraiment... J'avais pas envie d'être un personnage de bande dessinée, hein, pas très. Et puis, une des raisons aussi essentielles, c'est que je n'avais pas envie que la relation que je crée avec les personnes que j'accompagne, qui est primordiale pour moi, d'entrer en relation avec les personnes, comment je vais pouvoir créer une relation et comment je vais pouvoir faire en sorte qu'ils acceptent que je vienne les accompagner. J'avais pas envie qu'elle soit compliquée par la venue d'Étienne dans ce paysage-là de relations un peu duelles, en fait, que j'ai avec la personne.
Alors ça, on le connaît bien dans le champ thérapeutique, même y compris dans le champ social. La relation qu'on noue avec l'autre, elle est ténue, elle ne tient vraiment qu'à un fil, et pas à un phylactère, mais à un fil. Et donc, elle ne peut pas être troublée. Enfin, il ne faut surtout pas qu'elle soit troublée. Ça tient donc à un pacte, le pacte de la confidentialité. Qui est-ce qui l'a fixé, le pacte de la confidentialité ? C'est vous qui l'avez fixé, Françoise, ou il était comme ça, évident ?
Il était évident, mais c'est moi qui l'ai fixé. Et du coup, c'est Étienne qui m'a proposé un procédé qui m'a plu, quoi, le fait de ne pas venir avec moi, mais plutôt de raconter des situations qui existent, mais en anonymisant les personnages. Les personnes, en fait. Ce sont des personnages de fiction qui vivent des vraies situations. Oui. Donc moi, ça me convient, ça protège les personnes.
Ce qui nous met dans un monde complètement fou, on est dans des vrais personnages de fiction ou des personnages de fiction vrais. Enfin, il y a quelque chose de très troublant dans cette situation. Ça fait une espèce de boucle, là. Mais pour vous, Étienne, il y avait un impératif, c'était qu'il fallait... puisque vous aviez demandé à Françoise de faire un travail autour de son métier, il fallait que ça s'appuie sur des situations réelles.
Voilà, personnage de fiction, effectivement, que j'ai totalement inventé. La plupart des personnes que Françoise accompagne, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrées, je ne les rencontrerai jamais, pour les raisons qu'elle vient d'évoquer. Mais là, moi, je convoque ce que la bande dessinée permet, c'est-à-dire que si je sais très exactement, quand je dis très exactement, c'est au mot près, au geste près, comment se passent les journées de Françoise, je peux les redessiner en confiant ce qu'elle me raconte à des personnages que je crée moi-même. Et donc ça, c'est quelque chose que la bande dessinée fait assez naturellement. Si j'étais documentariste pour le cinéma, ce serait très compliqué. Il faudrait soit que je floute des visages, ce qui consiste à détruire l'image qu'on est en train de créer, ce qui, moi, me semble inconcevable, ou alors que je fasse appel à des comédiens dans un espèce de docu-fiction intermédiaire, chose que j'aime pas beaucoup non plus. En bande dessinée, dans la mesure où la personne qui lit le livre est mise au courant, et elle est mise au courant, on peut très bien dire à quelqu'un, voilà, je vous raconte une histoire qui se passe réellement. La seule différence, c'est que les personnages que vous voyez là, ce sont des personnages de fiction. Le reste, c'est ce qui se passe dans les journées de la personne dont je vous parle. Et voilà, les capacités de la bande dessinée, c'est quelque chose qui m'intéresse en soi et que j'ai convoqué dans ce projet-là.
Parce que ce pacte de la confidentialité est sous-tendu la notion de voyeurisme en dessous. C'est-à-dire qu'on peut supposer que la thématique, votre champ professionnel, Françoise, c'est un champ délicat que beaucoup de gens connaissent, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas non plus. Et on pourrait aisément tomber dans le graveleux, dans le voyeurisme, enfin dans l'indélicat. Et ça, c'était aussi... est-ce que c'était une chose que vous aviez imaginée, pensée est-ce qu'elle a existé, cette idée-là de voyeurisme, de ne pas tomber dans le voyeurisme?
Je ne sais pas si elle a existé, mais en tout cas, Étienne a encore là une fois proposé un procédé. Quand je ne voulais pas qu'il dessine certaines scènes, notamment les scènes les plus intimes, l'accompagnement aux toilettes, l'accompagnement à la toilette. Étienne a complètement n'a pas dessiné ces scènes. Il les a racontées, mais il ne les a pas dessinées. Et je pense que là, il y a eu cette possibilité-là de ne pas avoir accès au voyeurisme, juste de pas donner accès au voyeurisme.
Parce que votre métier, le mot que j'ai utilisé pour votre métier, c'est accompagnante. Vous êtes accompagnante.
Mais ça me va très bien.
et on peut dire que ce travail d'accompagnement, pour vous, c'est une vocation. Si je fais un rapide panoramique sur votre activité professionnelle, vous avez été infirmière.
Oui.
Vous avez été infirmière au centre Paul Papin, à Angers. Vous êtes maintenant dans un autre rapport à l'humain. Quand même, fallait une. Enfin, ouais, moi, je considère que oui, accompagnement, c'est pour. Enfin, moi, je le vois comme une vocation chez vous.
En vocation, moi, ça évoque quelque chose de religieux. Donc,
j'adore. Avec, nous sommes à côté d'Étienne Davodeau, qui a vécu à Botte, en Mauges, au cœur des Mauges, etc., etc. Donc, je trouve que cette connexion est passionnante.
Je ne sais pas si c'est passionnant, mais en tout cas. Le mot vocation, ça, c'est tellement... En plus, infirmière, on est issus de là. C'était les sœurs qui étaient infirmières il y a quand même quelques temps. Et donc, on est issus de ça. Et moi, je ne revendique pas trop ça. Mais j'ai toujours eu envie d'être auprès des personnes. Et quand j'étais infirmière, j'ai toujours voulu accompagner les personnes. C'est toujours ce qui m'a le plus intéressée. C'est de comment entrer en relation, comment comprendre ce qu'ils vivent, comment être en empathie avec ces personnes. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse.
Il y a eu un mot horrible hein, pour parler de ces activités-là. On parlait du care. Bon, l'attention aux autres, je trouve que c'est plus, d'abord plus français déjà. Ça parle beaucoup mieux d'ailleurs. Quand je parle de vocation, alors je vais rayer le mot. D'accord, je raye le mot. Promis, je ne l'utiliserai plus.
Merci beaucoup.
Mais la question de l'attention à l'autre, pour vous, c'est quelque chose de vital, quoi, d'essentiel.
Essentiel, oui, ouais. C'est quelque chose d'essentiel, vraiment. Il est nécessaire de travailler sur l'empathie, en fait, quand on veut accompagner les personnes. De savoir, de comprendre ce que pensent ou ce que ressentent les personnes dans la situation dans laquelle elles sont. Et de quoi est-ce qu'elles auraient besoin ou envie dans ces moments-là.
Alors, on va le voir un peu plus tard. Ça s'appuie dans cette, séquences de votre vie professionnelle. Ça s'appuie sur des pratiques et des méthodes particulières, mais on va y venir un peu plus tard. Vous, Étienne, vous vivez avec Françoise depuis de nombreuses années. Voilà. Mais elle exerce un métier dont la base, c'est la confidentialité. Vous l'avez vu partir très tôt le matin, rentrer fatigué, sans avoir beaucoup d'éléments sur les raisons de cette extrême fatigue, parce que Françoise est passée par des grands moments de fatigue. Vous vouliez comprendre ce que c'était que ce métier si envahissant ?
Oui, ben on est hein, comme beaucoup d'autres couples, on a l'habitude de se raconter nos journées de travail le soir en rentrant du boulot. Alors moi, je rentre de pas loin, mon atelier est ici. Mais Françoise, elle rentre de chez des personnes qui souffrent de ces pathologies, Alzheimer évidemment, mais pas seulement, des troubles neurologiques très divers. Et ce qu'elle me racontait de ces journées, qui sont des journées, c'est d'abord ça qui m'a frappé, qui demandent une intense concentration. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, du fait de leur pathologie, vivent en permanence dans l'instant présent. Et donc, ce que Françoise me racontait, c'est ça, cette hyper attention qu'on doit porter à leurs besoins, à leurs envies, dans le moment présent. Et donc, c'est ça qui doit être quelque chose de très prenant, de très envahissant même, de très technique pour le coup. Et c'est ça qui me fascinait en fait, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai lui proposé de raconter ça. D'une part parce que ça m'intéressait, et d'autre part parce que je pensais que ça pouvait être utile de partager ces connaissances-là, de partager le vécu de ces journées-là. Et un livre de bande dessinée en l'occurrence peut servir à ça aussi. Et c'est cet investissement personnel-là qui m'intéressait beaucoup de raconter. Parce que tout simplement, moi, c'est ce que je recherche à raconter dans mes livres. Quand je raconte l'histoire d'un vigneron qui vit à quelques pas d'ici, quand je raconte l'histoire de jeunes agriculteurs dans rural il y a 25 ans, c'est ça, ce sont aussi des gens qui s'investissent dans leur métier pour dépasser un peu le simple cadre d'une activité professionnelle. Ça parle d'un rapport au monde, ça parle d'un rapport aux autres. Et c'est typiquement ce que je cherche pour mettre dans mes livres.
C'est le moment d'écouter un peu de musique.
Premier ciel, terre de nuit, dans l'écho noir, paisible et infini, souterrain, le chant renaissant d'un germe, une offrande venue au monde avec son premier tissu, fragile et blanc, un astre flottant, minuscule synergie, boussole et sablier, sur le chemin du soleil. Dans cette mousseline baigne des fragments de nos mémoires délébiles, le lyrisme de nos lymphes et celle de nos ancêtres qui remontent le fleuve, rêve de retrouvailles, étreindre la source, le nirvana, abolir pesanteur, chaleur et temps dans l'abandon aérien d'une harmonie prénatale, encore racine dans la chair,
encore racine dans la chair,
sous la carapace douce, ni faim ni soif. Invincible dans une nuit divine, le corps vaguement bercé par une agitation lointaine. J'ai des poissons au centre de ma mère, et même si je n'ai pas d'image, je sais qu'il fut un temps où avec le centre de la terre, ou avec le centre de la mer, je ne faisais qu'un. Gamètes effervescentes dans l'espace noir aux oubliettes, plein de musiciens chantent qu'ils renaîtront demain. Dans le noir blotti, je me composais, poésie génétique, climat à elle, ritournelle, refrain lancinant l'évidence sur le tempo du cœur de ma mère où tout de moi s'appuyait. Je ne connaissais pas l'existence des loups, mais je savais tout. Je ne connaissais pas l'existence des loups, mais je savais tout, de la plus grande douceur et de la fluidité végétale. Aucune question. La paix pour premier ciel.
Retour sur le très bel album de cette rentrée, celui de Grise Cornac, avec ce titre d'ouverture, plutôt ce slam, Premier ciel. Vous écoutez Entre les pages, c'est sur Radio G. Rejoignez-moi dans l'atelier d'Étienne Davodeau. Françoise Aura est présente et nous parlons de l'album Là où tu vas. Moi, j'ai lu cet album. J'en avais un peu peur. J'ai craint d'être dans un album qui soit très didactique, très pédagogique. Et puis je me suis dit, mais que vient faire la bande dessinée là-dedans, en fait hein? Ça aurait pu être un livre qui soit édité chez Odile Jacob, par exemple. Et puis en fait, non, moi je me suis pris au piège de la bande dessinée. Enfin, je me suis pris au piège parce que je me suis dit, tout d'un coup, nécessairement dans une bande dessinée, il y a moins de mots puisqu'il y a beaucoup de dessins. Et dans cet album, le dessin apporte une... Enfin, pour moi, a apporté une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'a mis des mots sans qu'il n'y en ait. En fait, a permis de traverser toutes ces situations que vous racontez en les comprenant grâce au dessin. Dans la partie de votre parcours professionnel, celle qui est racontée, vous êtes devenue travailleuse indépendante.
Oui.
Après avoir travaillé dans l'institution, dans le voilà, les hôpitaux. Voilà, vous avez travaillé là-dedans pour pouvoir mettre en place les accompagnements qui vous convenaient, c'est-à-dire pour être libre de vos gestes. Mmh. Il s'appuie sur la méthode de Maria Montessori. La question du respect des personnes fragilisées, pour vous, c'est essentiel dans un système de soins. Vous ne le rencontriez pas avant ?
Alors si, je le rencontrais avant. Mmh. Mais pas suffisamment à mon goût, parce qu'il faut du temps, en fait, pour accompagner les personnes qui ont des troubles cognitifs. Il faut vraiment du temps, et ce temps-là d'accompagnement, on nous le donne pas beaucoup en institution. Il y a des institutions où ça fonctionne très bien, hein, où il y a beaucoup de choses de mise en place intéressantes, mais souvent, moi, ce que j'entends quand je vais donner des formations, parce que je suis aussi formatrice, quand je vais donner des formations dans les EHPAD, souvent on me dit, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'accompagner les personnes. Et donc, moi, j'avais besoin de ce temps-là pour pouvoir les accompagner au mieux.
Alors, cette compréhension, enfin, non, d'abord ce besoin de répondre mieux, d'être au plus près de l'humanité des gens avec qui vous êtes en interrelation. Les méthodes de Maria Montessori, alors moi, je les ai utilisées dans une autre vie, mais c'était plutôt du côté de l'enfance. Et puis, j'ai découvert avec étonnement qu'en fait, ça se déclinait dans d'autres domaines, en fait, que ces pratiques, ces méthodes étaient déclinées. Vous en aviez conscience au moment où vous avez pris un peu ce virage de l'indépendance professionnelle ?
Oui, c'était vraiment au début où je travaillais auprès des personnes qui ont des troubles cognitifs, donc il y a une quinzaine d'années. Je travaillais en tant que coordinatrice dans une équipe spécialisée Alzheimer. Et je me disais, il y a vraiment quelque chose à aller voir du côté de Maria Montessori, puisque tout ce qu'elle propose concernant l'accompagnement des enfants pourrait tout à fait se décliner auprès des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans un organisme qui avait mis en place l'approche Montessori adaptée aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà, c'est un Américain, hein, Cameron Camp, qui a mis en place cette approche-là dans les années 90-95. Et il s'est appuyé sur vraiment toute la théorie de l'approche de Maria Montessori pour l'adapter, c'est-à-dire d'adapter l'environnement, d'adapter le matériel, d'adapter notre posture pour pouvoir mieux accompagner les personnes, de s'appuyer sur les capacités des personnes et de les considérer comme des personnes avant de les considérer comme des malades et du coup de pouvoir mieux les accompagner.
Ça, c'est vraiment très, très étonnant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça étonnant. C'est-à-dire que la mise en place de la relation que vous allez tenter de créer avec les personnes que vous accompagnez, c'est, j'allais dire, ça répond presque à une stratégie. Il y a une approche qui se fait délicatement. Enfin, c'est vraiment... Alors, il y a un vrai problème, là. Enfin, pour moi, il y a un vrai problème. C'est que je ne sais pas comment, dans une époque de rationalisation des coûts, la sécurité sociale comprend ces stratégies-là, ces méthodes-là.
Alors, je ne sais pas si la sécurité sociale le comprend, mais il y a quand même des aides qui peuvent être apportées aux personnes, aux familles qui emploient quelqu'un comme moi. Je suis en chèque emploi service universel, hein, en CESU.
J'aime bien, moi, cette mécanique, parler de ces aspects-là, assez triviaux, mais en fait, qui parlent de la réalité professionnelle.
C'est, oui, c'est la réalité professionnelle, en fait. Moi, je fonctionne avec un tarif horaire, et les personnes qui m'emploient, donc les personnes chez qui j'interviens, sont mes employeurs. Et eux, ils peuvent avoir des aides par le département, l'aide personnalisée à l'autonomie ou la prestation compensatoire du handicap, suivant l'âge à laquelle la personne est diagnostiquée. Et il peut y avoir aussi une réduction d'impôts. Donc, il y a des aides, peut-être pas encore suffisamment, je pense. Et c'est parfois le parcours du combattant pour les familles pour obtenir ces aides.
Pour en bénéficier.
Voilà.
Et puis, il y a donc... Alors, ça donne une séquence. L'album est chapitré entre les situations et puis les... Comment dire, il n'y a pas que des situations qui sont exposées dans l'album. Et puis, il y a une séquence, c'est la séquence où la voiture roule, mais on est au Québec, il y a Carpe Diem. Donc là, Étienne, vous avez bénéficié de l'activité professionnelle de Françoise, puisque ça vous a permis de faire un voyage à Carpe Diem.
Exactement. Ouais, ouais. Françoise a été formée à Carpe Diem. Alors, Carpe Diem, c'est quoi ? C'est une maison où vivent des personnes atteintes de troubles cognitifs ou de la maladie d'Alzheimer à différents stades. Cette maison, elle est donc à Trois-Rivières, c'est une petite ville entre Québec et Montréal, et il y a une dizaine d'années, Françoise s'y est formée, parce que là-bas se développe une méthode d'accompagnement qui fait un peu figure de modèle, je crois même à l'échelle mondiale, concernant les malades d'Alzheimer et de pathologies neurologiques. Et il y a 10 années, j'étais allé voir Françoise là-bas dans l'hiver québécois. Évidemment, je n'étais pas rentré chez ces personnes, parce que c'est leur maison. Elles vivent là-bas, c'est une grande maison, entourée de gens qui les accompagnent. Mais à l'occasion du livre, on est retourné à Trois-Rivières, on est retourné à Carpe Diem, et Nicole Poirier, la fondatrice et toujours directrice de Carpe Diem, m'a autorisé à rentrer. Donc j'ai pu visiter Carpe Diem, j'ai pu le dessiner, Carpe Diem, j'ai pu discuter avec quelques personnes qui vivent là-bas. Et en sortant de Carpe Diem, en fait, on se dit, mais en fait, c'est possible. Carpe Diem prouve, et depuis longtemps, prouve qu'on peut mettre en place un accompagnement digne, respectueux, paisible, harmonieux, des personnes qui ont des pathologies neurologiques à différents stades. Et si c'est possible à Carpe Diem, est-ce que c'est possible en France, évidemment, et ailleurs ? Alors évidemment, il se passe des choses en France, il y a des projets qui sont en train de se monter, mais ce qui est très réconfortant en visitant Carpe Diem, c'est qu'on voit qu'un accompagnement de ce niveau-là, de cette qualité-là, il est possible. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à consacrer un chapitre à ce lieu incroyable.
Et le dessinateur, il a été vu comment ? Parce qu'il a fallu... parce que la problématique de la confidentialité, elle est identique au Québec et en France. Et ce n'est pas parce que les personnes vivent à des milliers de kilomètres d'ici qu'elles liront peut-être même pas l'album, qu'elles n'ont pas droit à cette notion de confidentialité. La directrice de Carpe Diem, comment elle a appréhendé votre présence ? Enfin, comment ça s'est passé ?
C'est elle-même qui m'a proposé de rentrer dans la maison. Je lui ai expliqué comment je travaillais, c'est-à-dire que les personnes que Françoise accompagne ici en France, je les ai anonymisées graphiquement. J'ai créé des personnages de fiction qui, comme on l'a expliqué au début de notre entretien. Donc j'ai fait la même chose à Trois-Rivières, hormis Nicole Poirier elle-même, évidemment, qui m'a donné son accord pour être dessinée dans mon livre. Mais l'idée pour moi, c'était vraiment de montrer ce lieu avec les gens qui y vivent, et avec les gens qui les entourent, qui les accompagnent, dont Nicole Poirier, mais elle n'est pas seule, évidemment, ils sont assez nombreux. Et de ce point de vue-là, ma façon de dessiner Carpe Diem est à peu près conforme à ce que j'ai fait dans le reste du livre. Et c'est ma façon de raconter que je tiens tout au long du livre, ou presque.
Oui, quasiment. Enfin, pour avoir essayé de comprendre un peu tout ce que ça pouvait impliquer. Oui, moi, je pense. Alors, on a abordé beaucoup la question de la confidentialité, puis il y a une transgression. Il y a la transgression, le basculement avec la situation de Cédric.
C'est pour ça que je disais « ou presque ».
Ou presque. Alors, Cédric, c'est vous, Étienne, qui avez souhaité raconter cette séquence-là. Je le rappelle, ce sont des chapitres, et là, c'est une séquence bien identifiée, où Françoise est intervenue. Comment ça s'est passé, le fait qu'à un moment donné, un personnage soit un vrai personnage avec son vrai nom et sa vraie situation ?
Son vrai prénom, en tout cas.
Son vrai prénom. C'est toujours des prénoms, oui.
Ouais. Ça s'est passé de la façon suivante. C'est une bête question logistique. Un jour, Françoise va travailler donc, chez une des personnes qu'elle accompagne, qui s'appelle, du coup, réellement Cédric. Sa voiture tombe en panne. Je dois aller la chercher.
La voiture de qui ?
De Françoise tombe en panne. Je dois aller la chercher, parce que voilà, pour la dépanner, c'est pas très loin d'ici. Je sonne à la maison où Françoise travaille. Une personne m'ouvre, et c'est Cédric. C'est la personne que Françoise accompagne. Je lui dis bonjour, on discute un peu. Et à partir de ce moment-là, pour moi, il était assez compliqué, assez étrange de me dire « Ok, je vais raconter l'histoire de ce garçon, mais je vais lui donner un autre prénom, un autre visage. » C'était d'autant plus étrange pour moi que rapidement, j'ai compris que Cédric avait une particularité qui me le rendait encore plus proche. Cédric et moi, on a le même âge. C'est-à-dire qu'on avait à peine 60 ans au moment où on s'est rencontrés. Et c'est jeune, 60 ans. De mon point de vue, c'est jeune en général. Mais c'est très jeune pour souffrir de ce genre de pathologie. Et avec l'accord de Françoise, j'ai donc proposé à Cédric qu'il me raconte ce qui lui arrive. Mais s'il en était d'accord, évidemment, et si sa famille en était d'accord, sa femme, ses enfants, sous son vrai prénom et sous son vrai visage, et ils ont tous accepté de témoigner dans mon livre, ce qui est pour moi un énorme cadeau. Je veux dire, je les en remercie encore, autant que je peux, parce que ce témoignage-là a une espèce de... Alors c'est pour ça que je l'ai mis à la fin du livre, parce qu'il a une espèce de portée supplémentaire, de puissance. Il montre bien comment ces maladies peuvent impacter une personne, une famille, à un moment où on ne l'attend pas. C'est un coup de foudre qui vous tombe dessus. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant à Cédric et à sa famille d'avoir accepté.
Alors ça donne lieu, dans cette séquence-là, à une case que moi je trouve lumineuse, même si Françoise dit à un moment donné de l'album que vous êtes un mauvais portraitiste, vous sonnez, la porte s'ouvre, et il y a le visage de Cédric qui apparaît. Et je trouve cette image bouleversante, parce qu'on sait que vous allez raconter cette histoire. Et tout d'un coup, on comprend que cet homme, effectivement, qui est très jeune, est en train de basculer. Enfin, sa vie est en train de basculer. D'ailleurs, on le voit, la séquence est vraiment bouleversante. Moi, j'ai trouvé cette simple image. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que la bande dessinée, il y a une valeur ajoutée sur l'aspect simplement documentaire, c'est qu'elle donne tout d'un coup en filigrane l'émotion qui est là, qui est très présente. Et moi, j'ai vraiment bouleversé. Françoise, cette séquence, comment vous la voyez, puisqu'on a parlé de confidentialité, puisqu'on a parlé de tout ça, comment vous l'avez lue, vous, cette séquence, dans laquelle vous êtes ?
Je l'ai trouvée très réaliste.
Oui.
Très réaliste et aussi très émouvante. Moi aussi, j'ai été bouleversée par beaucoup des chapitres d'ailleurs que Étienne a raconté, et ce chapitre-là en particulier, parce que c'est quelqu'un que j'accompagne vraiment beaucoup sur des journées entières. Donc voilà, il y a une relation qui s'est vraiment établie encore plus, une relation plus intime, plus précise, plus importante en fait, avec lui, avec sa famille. Il y a une vraie relation, des vraies belles relations qui sont mises en place. Et voilà.
Oui, mais n'allons pas plus loin, je pense que c'est bien de le dire comme ça. Enfin, pour moi, c'est bien de le dire comme ça. Il se produit dans l'album exactement ce qui est en train de se produire en ce moment même. Très étonnamment, c'est qu'on entre dans des phases d'émotion profonde, et on l'entend. Et puis, il y a une pirouette finale, la dernière séquence, qui est à la fois dans l'intime, puisque c'est de votre maman dont il est question, Françoise, mais quand même, il y a une note d'humour.
Oui, quand même. On va peut-être pas tout dévoiler.
Non.
Mais il y a une petite note d'humour, oui, qui m'a laissé perplexe quand ça s'est produit, parce que oui, ça s'est réellement produit. Oui. J'ai raconté ça à Étienne en rentrant de voir ma maman. Et voilà, j'étais perplexe et en même temps, j'étais... moi, je suis dans la posture aussi des famille accompagnante.
Oui, vous êtes, vous trouvez au debout de la chaîne, en fait, finalement, à un moment donné.
Voilà. Hein?
Mais je trouve que c'est une Alors, je dis que c'est une manière de dédramatiser, mais effectivement, il ne faut pas en dire plus, parce que ce qui est montré dans cette dernière séquence est raconté dans une des avant-dernières séquences, là, quand vous êtes... je pense que c'est au moment où vous êtes parti dans ce chalet et où il y a des pas dans la neige et on voit des personnes réparties. Alors, à nouveau, Françoise, vous avez osé dire, peut-être avez-vous raison, que Étienne était un mauvais portraitiste. Maintenant, reconnaissez que c'est un bon paysagiste.
Je le reconnais, mais même en tant que portraitiste, je le charrie un peu.
Parce que ces pages-là, moi je retrouve ce que j'aime beaucoup dans votre travail, ces pages de paysage où vous marchez dans la neige, dans la montagne, enfin vous nous y emmenez, quoi. Enfin, c'est vraiment très beau.
Mais elles ne sont pas là pour... le lieu est très joli, mais c'est pas là pour faire joli. C'est-à-dire que cette séquence qui s'est réellement produite, on a beaucoup marché dans la neige, c'était l'hiver avec des raquettes, etc. C'était ce moment où Françoise m'a raconté en détail son métier. Métaphoriquement, l'idée des traces dans la neige qui s'effacent, évidemment, même si c'était pas intentionnel, mais j'y tiens beaucoup. Métaphoriquement, ça parle de ça. Ça parle de la mémoire qui s'enfuit. Ça parle des traces qu'on laisse. Notamment dans un livre, puisqu'un livre sert aussi, et peut-être d'abord à ça, à garder trace un peu plus longtemps que nos propres existences, de nos expériences humaines, personnelles, professionnelles, de vie en général. Et donc, c'est ce moment à la fin du livre où tous les fils que je lance à travers le récit qu'on vient de lire se rassemblent, je les tisse pour faire le dernier chapitre. Donc, il y a cette séquence montagnarde avec les traces qui s'effacent ou pas. Il y a la séquence avec la maman de Françoise, évidemment, qui est arrivée à ce moment-là, que j'ai souhaité mettre en image. Tout ça pour dire qu'on est tous plus ou moins concernés par ces questions-là. Il y a plus d'un million de personnes en France qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Si on y ajoute les gens qui sont les proches, les amis, les familles, ça fait plusieurs millions de personnes. Nicole Poirier, dont on parlait tout à l'heure, qui dirige Carpe Diem au Québec, nous dit que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas la maladie d'une personne, c'est la maladie d'une famille. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène social important et sous-évalué, sous-raconté, si j'ose dire. Ça me semblait même une question politique importante. Comment va-t-on prendre soin des plus fragiles et des plus dépendants d'entre nous? Si on mesure la qualité d'une civilisation à ce critère-là, comment elle prend soin des plus faibles de ses membres, on est là devant une vraie question politique, d'organisation de la société. Et toutes ces images-là parlent de ça. J'aimerais bien qu'elles parlent de ça. J'aimerais bien que les gens qui lisent le livre prennent conscience de ça.
Il n'y a pas de souci. On en prend parfaitement conscience. Enfin, les questionnements qui ponctuent ces images, on en prend parfaitement conscience. C'est évident que la question des personnes exclues en France, je dis en France, puisque nous sommes dans ce pays-là, c'est une promesse politique non tenue depuis des années. On parle des personnes affectées de pathologies. On peut parler des prisonniers, on peut parler de plein de choses. On est au même stade de réponse politique objective qui permettrait effectivement d'être plus humain, enfin d'avoir vraiment de l'humain dans une société en 2025, parce que c'est bien de ça dont il est question. Encore un petit peu de musique maintenant.
On mérite tous une lettre d'amour. Oui, on mérite tous une lettre d'amour. Posée sur la table à notre retour. Une déclaration enfermée à double tour. On mérite tous une lettre d'amour. Oui, on mérite tous une lettre d'amour. Posé sur l'oreiller au petit jour. Une vérité donnée pour être un peu moins lourd. On mérite tous une lettre d'amour. Quelques phrases, quelques mots ou bien un long discours. Perdu dans les recoins de ceux qui nous entourent.
perdu dans les années, un point de non-retour. On mérite tous une lettre d'amour. Sur un banc posé au milieu de la cour, relire ses mots d'enfant, relire ses traits d'humour, sentir le palpitant avant d'aller en cours. On mérite tous une lettre d'amour. Dans la gare ferroviaire, après un long détour, et se dire qu'on a bien fait d'attendre tous ces jours, que tout ce qu'on a gagné valait bien le parcours. On mérite tous une lettre d'amour. Ressentir la tendresse quand on voit plus le jour. Quand le temps écoulé nous a mis hors concours. Quand devant le bonheur on reste à moitié sourd, à moitié sourd. On mérite tous une lettre d'amour. Quand tout autour de nous ne reste que les vautours. Il suffit de trois mots pour trouver la bravoure. Et se sentir d'attaque pour faire demi-tour, demi-tour. Un jour je t'écrirai une lettre d'amour. Je ferai briller tes yeux, des étoiles tout autour. Mais pour l'instant les mots ne viennent pas à mon secours. C'est ma lettre d'amour qui maintenant tourne court.
Encore une nouveauté. On mérite tous une lettre d'amour. C'est elle. Cette nouveauté annonce l'album à venir que Zelle délivre par petites touches. C'est toujours un plaisir de les retrouver. Et bien évidemment, ce n'est que sur Radio G. Retrouvons la dernière séquence de ma rencontre avec Françoise Roy et Étienne Davodeau pour l'album « Là où tu vas ». Étienne, vous venez de parler de la permanence du livre, de ce qui reste, et donc de... ce qui permet de ne pas oublier, finalement. Mmh. Je vous ai soumis à tous les deux une épreuve, donc de choisir deux livres chacun. D'habitude, quand j'ai un invité, il a quatre livres, mais vous, je suis désolé, il va falloir partager ces deux livres chacun. Françoise, vous avez choisi quel livre ?
Alors moi, j'ai choisi un roman, d'une part, de Marion Fayolle, du même bois. Mmh. Oui.
Elle regarde Étienne, demandant si c'était bien ça.
Oui, parce comment que ça... des fois, j'oublie le titre des livres que je lis et que j'aime.
Vous êtes travailleuse indépendante, il faut... Assumez-vous.
Oui. Voilà, c'est l'histoire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que son écriture est très poétique. Hein, l'histoire d'une transmission, d'une continuation d'une famille de paysans... voilà la transmission du travail, mais aussi de la vie. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, et c'est une écriture très, très poétique. Mmh. C'est très, très bien.
Donc ça, c'est le premier choix de Françoise. Étienne, votre premier choix, vous, c'est quoi ?
Moi, ce sera un livre de dessin, pas de bande dessinée, de dessin, mmh. de dessin pur. Un livre qui célèbre la joie, la liberté du dessin. C'est un livre que j'ouvre souvent parce qu'il m'emballe. Ça s'appelle « Sumo ». C'est de mon ami David Prudhomme, qui est aussi, par ailleurs, un grand dessinateur de bande dessinée. Mais là il fait des voyages au Japon, et il ramène des dessins des sumotoris, donc c'est de ces gens qui pratiquent ce sport de combat traditionnel du Japon. Et il a publié un très gros livre, gros en format, en pagination, un livre abondant, un livre puissant, copieux, qui est un des plus beaux livres de dessin que je connaisse et qui est toujours en évidence dans mon salon parce que de temps en temps, je vais l'ouvrir. Et je suis très, très admiratif du talent de dessinateur de David Prudhomme qui me semble quelque chose à laquelle on peut laisser s'abreuver très régulièrement quand on est soi-même dessinateur.
Un compagnon de route quand même, hein.
Et c'est un compagnon de route. On a fait un livre ensemble il y a quelques années sur l'adaptation du roman de Georges Brassens, La Tour des Miracles. On a beaucoup dessiné dans les grottes. David est aussi passionné par le dessin pariétal et il nous a emmené beaucoup avec des amis dans les grottes ornées du sud de la France. On y a fait deux livres. Marc Azéma fait un film sur notre expérience qui s'appelle Rupestre. Bref, c'est quelqu'un qu'il est plaisant de côtoyer. Voilà.
Votre deuxième choix, Françoise ?
Alors, mon deuxième choix, c'est un livre de bande dessinée. Je souris un peu parce que je crois que j'ai oublié le titre. C'est de Carole Loubet et de Moitienne. En territoire ennemi, voilà. Ouais. En territoire ennemi de Carole Lebel. Et vraiment, c'est une bande dessinée... très accrocheuse, qui parle de l'emprise d'un compagnon sur sa femme, très, très embarquée. Ça va très très loin, ça va jusqu'à une emprise très très importante et sur tout ce qui...
Non, il n'y a pas de souci. Non.
Voilà, je vais juste dire ça, sur l'emprise d'un homme sur sa femme, et qui m'a beaucoup touchée.
Votre deuxième choix, Étienne ?
Mon deuxième choix, c'est l'édition en poche d'un livre qui s'appelle « Les origines de la France » de Sylvain Venner, qui est aussi un gars avec qui j'ai travaillé. C'est pas du placement de produit, c'est juste que les gens avec qui je bosse, j'aime bien ce qu'ils font et j'ai envie d'en parler. Sylvain Venner, il est historien. C'est un historien spécialiste du voyage, notamment, il a aussi travaillé sur la collection qui s'appelle l'Histoire dessinée de la France. Ensemble, on a écrit et dessiné le premier tome qui s'appelle Les Origines et La Balade nationale. Et Les Origines de la France vient d'être édité en poche avec un petit texte augmenté à la fin qui parle de ces dernières années et qui pose la question, cette question un peu clivante, sur laquelle on est tous un peu tendus, sur ce que veut dire être français. C'est quoi les origines de la notion de France et de la situation d'être français ou française ? Et c'est très intéressant parce que ça ouvre beaucoup sur des hypothèses qu'on n'a pas forcément en tête. On a tous en tête nos ancêtres les Gaulois, on a tous en tête Clovis, Charlemagne, etc. C'est plus compliqué que ça, c'est plus ramifié que ça, c'est plus intéressant que ça, et c'est bien plus beau que ça. C'est très utile de se replonger sur la parole de vrais historiens, parce qu'on entend beaucoup dans les médias des gens qui ne sont pas des historiens parler de l'histoire de France sous une forme très orientée, souvent très à droite, très à l'extrême droite, évidemment, pour nous raconter des choses qui ne sont pas historiquement exactes. Et Les origines de la France de Sylvain Venner est un antidote puissant à ces bêtises.
Toutes ces conseils de lecture seront bien entendu sur la page du site. Pour terminer cette conversation, Françoise, est-ce que vous êtes la même Françoise qu'avant le début de cette aventure ?
Alors, sans doute pas.
Allons au-delà du sans doute.
Alors, au-delà du sans doute, je pense que le fait d'avoir répondu aux questions d'Étienne, d'avoir travaillé avec Étienne sur le fait de savoir comment je travaillais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment je le dis, comment je le fais, pourquoi je le dis, pourquoi je le fais, ça met en lumière, moi, ma façon de travailler, et ça me fait prendre du recul sur mon travail et de mettre en perspective tout ça.
Vous, Étienne, témoigner du monde, c'est plus urgent que d'entreprendre des projets de fiction ?
Oh, je ne serais pas aussi tranché que ça. Non, parce que la fiction peut être aussi une façon de témoigner du monde, mais en tout cas... La bande dessinée de non-fiction que je pratique avec Là où tu vas ou avec des livres plus anciens comme Le droit du sol, Les ignorants, etc. C'est une façon de faire de la bande dessinée qui me plaît beaucoup, qui, très égoïstement, ça me consiste pour moi à apprendre des choses, ça consiste pour moi à découvrir des univers et à le raconter, en faire profiter les gens qui liront mon livre. Donc c'est un truc qui me porte beaucoup, que j'aime faire. Par ailleurs, la fiction, qui est cette liberté d'écrire ce qui nous passe par la tête, c'est aussi très plaisant en bande dessinée. Donc, je vais continuer à alterner les deux. Mon livre précédent, Loire, était une fiction. C'est une histoire que j'ai imaginée, même si elle est aussi très documentée, parce qu'on ne se change jamais complètement. Mais pour moi, c'est une sorte de respiration, le passage de la fiction à la non-fiction. Et j'y trouve une espèce d'équilibre qui, pour l'instant, me convient, dont je ne me lasse pas. Donc, je vais sans doute continuer. Alors, peut-être pas systématiquement passer de la fiction à la non-fiction à la fiction, mais les projets viennent comme ils viennent et je m'adapte à tout ça. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire en bande dessinée.
Françoise, cet album est né d'interrogations d'Étienne sur votre métier, sur qu'est-ce que c'était que cette activité-là. Et en fait, à la fin de cet album, vous êtes-vous prise dans le tourbillon de l'après-album, puisque vous accompagnez Étienne dans toutes ses rencontres. Donc, vous découvrez une facette, finalement, parce que peut-être que c'était incompréhensible pour vous, toute cette agitation d'après-album. Comment vous vivez cette séquence-là? Parce que vous êtes partout, là.
Voilà, je suis un petit peu partout en ce moment. C'est assez intense pour moi depuis la sortie du livre. Oui, j'avais l'impression, moi aussi, de connaître le métier d'Étienne, parce que je l'accompagne quelquefois en dédicace, en festival ou en librairie. Pas tout le temps, vraiment pas beaucoup, un peu. Mais là, je vis moi-même ce moment. C'est des moments très riches, très passionnants, hyper touchants. Les gens qui peuvent, dans des rencontres publiques, nous dire combien ils ont été touchés par le livre, que ce soit des professionnels ou que ce soit des personnes ou des familles. Et voilà, je trouve ça hyper touchant. Mais c'est intense. C'est intense. Et donc, moi, comme j'ai pas laissé mon travail de côté, donc je fais mon travail et les rencontres publiques et les interviews. Et voilà, c'est passionnant. C'est passionnant.
Ouais, c'est vrai, le livre est sorti début octobre et depuis début octobre, on a fait pas mal de rencontres publiques en librairie, en médiathèque, en festival. Et moi qui fais des livres depuis plus de 30 ans, j'ai jamais connu, je crois, pour la sortie d'un de mes livres, cette intensité de réaction des gens qui viennent nous voir après avoir lu le livre. Et je crois que c'est dû au sujet et au personnage principal, évidemment. Et les gens qui viennent nous rencontrer viennent surtout rencontrer Françoise, en fait. Ils viennent lui poser des questions, ils viennent témoigner de leur expérience. On sent, indépendamment de l'existence du livre, hein, mais on sent qu'il est important de partager les expériences quand on a soi-même quelqu'un qui souffre de ces pathologies neurodégénératives dans ses proches. Les gens ont besoin d'en parler, ont besoin de comprendre, ont besoin d'avoir des infos. Et si ce livre peut servir à ça, de point de rencontre, simplement, pour qu'on puisse échanger avec des professionnels comme Françoise, mais même aussi entre soi, ce serait pas mal.
Eh bien, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je vous remercie Françoise et Étienne de m'avoir accueilli dans votre maison. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Je ne trouve pas le temps de me séparer de mon hamac. Je n'entends jamais de vent qui ride les eaux de mon lac. Tic-tac, rythme du cardio, toujours glisser plus haut, au-dessus de zéro. Toute la piste va s'affoler, brûler, brûler les feux follets. Tout son cadence accéléré, mais qui peut arrêter le DJ? Quand tout est speed et trash, on reste, on s'arrache comme d'une fête ratée. Quand tout est speed étrange, le démon qui me démange, c'est de me balancer. Balancer au gré des passions, balancer, laisser faire. Thank you. se bat. Mais s'il faut se bagarrer, j'ai pas de gilet pare-balles. Je préfère carrément me barrer. Quand tout est speed et trash, on reste, on s'arrache comme d'une fête ratée. Quand tout est speed et tranche, le démon qui me démange, c'est de me balancer. Balancer au gré des passions, balancer, laisser faire. Tellement beau si on mettait le monde à l'envers. Balancer au gré des passions, écoute tes pouces et tes cheveux. Un jour je serai papillon, je volerai où je veux. J'ai pas appris sur le papier, ni les pas ni le prix qu'il faut payer. J'ai pas les nombres ni les mots, bercés au chant des animaux. Balancer au gré des passions, balancer, laisser faire. Oh, tout serait tellement beau si on mettait le monde à l'envers. Balancer au gré des passions, écoute tes pouces et tes cheveux. Un jour je serai papillon, je volerai où je veux.
Parfois, on aimerait que les conversations ne s'arrêtent pas. Cette heure passée dans l'atelier d'Étienne Davodeau relève presque de la magie. Tout concordait, le temps superbe, la campagne givrée sous le soleil et la densité humaine de la rencontre. J'espère que j'ai réussi à vous faire ressentir la chaleur de ce moment si particulier. Pas d'agenda aujourd'hui, seulement quelques conseils de lecture ou de cadeaux à mettre sous le sapin. Bien évidemment, là où tu vas devrait impérativement y trouver sa place, à côté de l'indispensable et réjouissant micro-album de Marc-Antoine Mathieu, l'infiniment moyen et plus si infinité dans les limites finies d'une édition minimaliste, mais aussi le si beau roman de Thierry Froger, Rose à la mer, ou le recueil de Gris Cornac, Les nuages te le disent mieux que moi. Et puis, le puissant livre de Daniel Bourion, Le pays dont tu as marché la terre. Tous ces livres prouvent, s'il en était besoin, que la création littéraire en Anjou est diablement vivante et de très grande qualité. Mais vous le savez déjà si vous écoutez Entre les pages. Au cours de l'émission, vous avez entendu Gris Cornac qui a slamé Premier ciel, Zelle qui a chanté On mérite tous une lettre d'amour et Théophile qui a chanté Papillon. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 31 décembre à 17h. Pour cette dernière émission de l'année 2025, j'ai décidé de vous faire profiter des moments auxquels j'ai participé et que j'ai enregistrés. Un petit patchwork qui, je l'espère, vous fera patienter en attendant la nouvelle année 2026. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.